Pour commencer, on continue dans Luc, la même série où on est rendu en temps normal. Mais pour commencer, j'aimerais vous partager quelque chose sur ma vie. Chez nous, ma mère, elle a grandi sur une terre. Elle avait des énormes jardins. Elle avait des gros jardins. Mon père, lui, venait d'une autre région, Québec. Il était en ville. Donc, quand on était petit, on avait quand même un jardin qui était correct. Donc, j'ai grandi en connaissant un peu comment faire pousser quelques légumes ou autres. Vous allez comprendre plus tard où je m'en vais avec ça. Nous, on déménage, on part de l'Estrie où on avait une maison, moi puis Geneviève, mon épouse. On arrive à Montréal, et là, avoir un jardin dans un appartement, un troisième étage, un peu plus compliqué. Donc, éventuellement, avec les années, on a décidé de faire pousser quelques petites fines herbes. Je ne sais pas si d'entre vous, certains font pousser des choses à la maison. Est-ce qu'il y en a des professionnels du jardinage ici? Un petit peu? OK. On a réussi à faire pousser des fines herbes, certains légumes. Et là, tout d'un coup, ma femme, qui aime beaucoup la chaleur et autres, a une brillante idée. Et moi, je l'accompagne dans cette idée-là. On décide d'acheter un limetier. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un limetier? Un limetier, c'est des limes qui seraient supposées de pousser au bout d'un limetier. Donc, nous, on l'achète. Au début, moi, le limetier aurait pu mourir après deux semaines. Ça m'aurait pas vraiment dérangé. Mais on l'a planté, on a regardé le limetier, on dit « Oh, c'est quand même un gros limetier. On va le mettre dans un gros pot, il va avoir de la place, il va être bien. » Donc on achète un gros pot, on le plante dedans, on en prend soin. Après un certain nombre de mois et même d'années, je commence à me poser des questions, est-ce que c'est vraiment un limetier qu'on a acheté? Et là, tu le regardes, tu dis « Oui, il a la forme, mais il n'y a rien qui pousse. » Donc, on essaie de faire plein de choses. On essaie de mettre plus d'engrais. On essaie de faire plein de choses avec le merveilleux limetier. Et après toutes ces années, on commence à dire, on s'en débarrassera pas. T'sais, on va le garder. On a mis tellement d'efforts dessus, tellement d'entretien, mais ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va avec ça? Donc, moi, mon épouse, on décide, après un certain nombre d'années, la brillante idée, on va aller à l'endroit où on l'a acheté. Poser des questions. On aurait peut-être dû y penser avant, mais d'accord, c'est venu après quelques années. Après quelques années, on commence, on va voir la personne, puis là, on commence à y expliquer. Il n'y a pas de lime qui pousse. Nous, on dit, il est gros, là, le limetier, là. Elle fait, ah ouais, c'est un gros limetier. Elle dit, il est quelle grosseur? Là, on lui montre avec nos doigts, vrai, la grosseur du tronc. Elle dit, oh, pour vous, c'est un gros limetier. Oh, oui, non, il est petit. Il est petit? Oui. Il dit, c'est un petit limetier. Elle dit, quelle est la grosseur du pot que vous avez utilisé? On lui montre la grosseur du pot. Elle dit, oh. OK, il a là le problème. Il dit, comment ça, il a le problème? Il dit, oui, un limetier n'a pas de grandes racines. Donc, le problème que tu as avec un gros pot, c'est que tu as tellement de terre que tout ce qui est bon descend dans le fond, loin. Mais il dit, jamais ton limetier va avoir des assez grandes racines pour aller chercher ce qu'il a de besoin. Ah, tu l'enrichis, tu vas y mettre des superflus sur le dessus. Il va en avoir juste assez pour être capable de s'entretenir, avoir des belles feuilles, des choses comme ça. Mais pas assez pour aller chercher ce qu'il y a de besoin. On a fait, ah, OK. Donc là, on a commencé à poser des questions. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Où on devrait aller? La première chose qu'elle nous a dit, c'est organise-toi pour que ses racines aient assez de choses pour être capable de grandir et après ça, être capable de porter du fruit. On a fait ça et un an après, j'ai dit, wow, hey, c'est un vrai limetier. Alors, il n'y a pas beaucoup de lime, on s'entend. Il y en a sorti une toute petite. Ouais, tout heureux. Est-ce qu'il porte beaucoup de fruits? Bon, il est rendu qu'il y en a deux dedans. Je disais à ma femme, on va l'amener ce matin. Elle dit non. C'est comme ça. Il y a deux limes. S'il tombe en s'en allant, moi, je ne sais pas ce que je te fais. Correct. Dans la démonstration du limetier, vous pouvez l'imaginer ici, là. Deux limes. Donc, j'aimerais qu'on puisse... Je vais aller chercher ce que j'ai de besoin. J'ai mis ce piano. J'aimerais qu'on puisse tourner dans Luc 13. On est rendu dans Luc 13, versets 1 à 9. Quand j'ai eu ce passage à creuser, je me suis cassé la tête assez longtemps. Je suis pas capable de savoir qu'est-ce que Luc veut dire. Pourquoi est-ce qu'il met là? Pourquoi est-ce qu'il met à cet endroit-là? Ceux qui étaient là la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, on a eu une panoplie d'informations assez utiles. Mais pourquoi à cet endroit-là, Luc nous parle de ceci? On va commencer par le lire. Donc, on lit Luc, chapitre 13, verset 1. On lit. « En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, si 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'il ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutile? » Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Quand j'ai vu ce passage-là, j'ai fait « Oh boy! » C'est quand même pas évident. C'est pas un passage que je suis habitué d'essayer de creuser et voir. Souvent, c'est des dialogues, c'est plus facile. La personne va échanger. J'ai dû en échange d'informations. Ici, c'est pas le cas. Ici, ce qui revient dans les premiers versets, c'est quoi? À 2 reprises, Jésus prend la peine de poser des questions, amener une interrogation, mais dit... Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Dieu permet que nous soyons troublés lorsque nous entendons et lisons d'horribles choses qui se passent dans le monde. La réaction souvent qu'on peut avoir, nous, quand on voit ça, c'est peut-être de s'apitoyer. Peut-être d'aller voir la personne ou voir des gens puis commencer à consoler. La réaction des gens qui ont été voir Jésus... était correct. Ils ont été voir Jésus, puis là, ils se sont dit, « As-tu entendu la nouvelle par rapport aux Galiléens? » Les Galiléens, là, qui sont fait tuer par Pilate. Et Pilate était un homme qui était réputé pour avoir une cruauté assez sans bornes. Il était quand même assez haut placé, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Ici, il va voir des gens, des Galiléens, puis qui étaient certainement des Juifs, parce qu'ils offraient des sacrifices en Galilée. Et ce qu'il a fait, c'est... il n'a pas vraiment mélangé, il n'a pas vraiment fait des sacrifices. Ce que le texte nous dit, c'est que ces gens-là étaient en train de faire des sacrifices, peut-être au nom de Dieu, comme à la coutume juive. Parce qu'on s'entend que ici Jésus parle à des personnes qui sont sous l'ancienne alliance. Donc, l'ancien fonctionnement de « tu viens et tu offres des sacrifices ». Et Pilate en a profité pour faire tuer les gens qui étaient là. Comment aurions-nous réagi si quelqu'un vient nous voir et nous pose une question? S'il vient nous voir, « Hey, t'as-tu entendu telle nouvelle? » Quelle aurait été notre première réaction? La réaction de Jésus n'est pas du tout ce qu'on s'attend. Jésus demande à l'auditoire, « Est-ce que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres? » Parce qu'ils ont souffert de la sorte. « Oh, OK, c'est pas ce qu'on s'attend. » Tu veux dire, « OK, Jésus aurait pu compatir un peu plus. » Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Plus de réconfort de la part de Jésus aurait peut-être été bien. Jésus répondit, non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Oh! OK, il n'est pas du tout en train de réconforter les gens. Il n'est pas du tout en train de dire, mon pauvre petit, viens ici, puis on le flatte. Non. Il n'est pas du tout dans cette ligne de pensée. Après ça, en plus, il retourne une deuxième fois, puis il leur dit, les 18 personnes tuées lorsque la tour de Siloé est tombée, étaient-ils plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Ici, on passe d'une tuerie, d'un meurtre, quelque chose de tragique que l'homme a pu faire. Ce que peut-être nous, on aurait pu se dire, ah, cette personne-là est horrible. Et Jésus passe totalement à autre chose, à un accident. Plus en Galilée, mais vraiment à Jérusalem. la grosse tour de garde où il y avait des gardes à l'intérieur, la tour de garde tombe, ce qui est un accident, il tue 18 personnes. Et il pose la question, il dit, était-il plus coupable que les autres habitants de Jérusalem? Jésus, peut-être sans attendre, leur dit non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. On voit ici Jésus met l'emphase sur la repentance. Pourquoi Jésus fait ça? Bien, on peut lire à différents endroits. Exemple, dans Matthieu chapitre 9, 12. Et à différents endroits, on peut tourner. Matthieu 9, chapitre 12. Jésus dit, Jésus qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Si on regarde dans un autre texte aussi, dans Matthieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, des gens avaient amené un paralytique. Ils l'avaient amené à Jésus. Et là, Jésus, à place de le guérir, comme ce serait attendu, comme il dit ici, les malades ont besoin de Jésus, Jésus arrive et lui dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et là, il continue l'histoire. Il dit, « OK, tes péchés te sont pardonnés, mais parce que certaines personnes ne croient pas, lève-toi et marche. » Donc, Jésus guérit un paralytique et aussi un autre démoniaque à un autre endroit. Et ce qu'il nous dit, c'est Jésus connaissait les pensées des scribes et des pharisiens. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne suis pas capable de faire. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas réagi de la même manière. Ici, Jésus, je crois qu'il connaissait les pensées de l'auditoire. Quand les gens sont venus l'interroger sur les Galiléens qui avaient été maltraités ou autres, je suis pas mal sûr que Jésus connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur, ce qu'ils pensaient. C'est pour ça que Jésus leur pose des questions. Il fait référence à leur repentance. Jésus fait référence à « Repentez-vous, sinon vous périrez tous de même. » Jésus amène le sujet de la repentance par deux illustrations. Une qui est tragique, une qui ne l'est pas, une qui c'est un accident. Et sa réponse est une conséquence négative. Si tu refuses, vous périrez. À l'époque, c'était correct. Les gens avaient une certaine connaissance de ça. Ils savaient. Mais ici, Jésus s'adresse à certaines personnes. Il connaissait le cœur. Il voyait le cœur. Ici, il ne s'adresse pas juste à savoir c'est quoi la conséquence si tu ne te repens pas. Ici, c'est la repentance, elle est pour qui? Qui devrait se repentir? Donc ici dans le texte, si on retourne dans Luc 13, à deux reprises, il prend le temps d'expliquer et de dire, « Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Ici, ça s'adresse à toute personne. Toute personne doit se repentir. Jésus veut dire quoi par « périr »? Vous périrez tous de même. Est-ce que Jésus fait référence seulement au corps? Seulement à l'aspect charnel d'une personne. Nous sommes tous pécheurs, donc tous nous avons un corps, tous nous mourrons, tous on s'en va vers la fin de notre corps charnel. Mais Jésus ici ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire que si on ne se repent pas, une tour va nous tomber dessus. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on va tous finir par être assassinés d'une quelconque façon. Ici, Jésus va plus loin. Jésus est venu pour nous sauver de la mort éternelle. Dans Luc 12, 4, 5, je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Romains 3, 23 nous dit, « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc ici, Jésus retape sur le clou. Dans l'Évangile selon Luc, rien n'est placé au hasard. C'est vraiment chronologique, tous les textes se suivent. C'est pas là pour rien. Jésus affirme à l'auditoire que tous, sans exception, ont péché et qu'ils doivent se repentir de leur péché. Au verset précédent, Jésus met en garde son auditoire de se présenter devant un juge lorsque nous sommes coupables. Nous avons vu la semaine précédente dans Luc 12, je pense que c'était de 35 à, jusqu'à la fin, mais nous lisons dans Luc 12, 58-59, juste avant. Il dit « Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'argent et que l'argent ne te mette en prison. » Ceci, c'est une figure qu'on peut comprendre de tous les jours. Et on continue, il dit, « Je te le dis, tu n'en sortiras point que tu n'aies payé jusqu'à la dernière petite pièce. » Et que tout après, vient ce qu'on vient de lire. « Repentez-vous, sinon vous périrez tous. » Si on se présente devant Dieu, qui est juge à la fin des temps, et que nous sommes coupables dans les temps où nous sommes, ça va être la même chose que ce qu'on vient de lire. On va se présenter devant lui, et qu'est-ce qui va se passer? Tu n'en sortiras point que tu n'aies payé jusqu'à la dernière petite pièce. Ici, ce n'est pas de l'argent qu'on va devoir débourser. Ce n'est pas aller en prison pour un certain temps. Il n'y aura pas de, comme on le Monopoly, « Hey, sortir de prison sans frais. » Il n'y aura pas de ça. Tu ne vas pas passer et sortir de prison comme ça. Il n'y aura pas, c'est pas ce jugement-là. Ici, Jésus fait référence au jugement éternel. Donc, après la mort, il n'y arrive qu'une seule fois où on sera jugé. Et Jésus met l'emphase là-dessus. Il connaît les cœurs des gens. Comment est-ce qu'on peut se dégager de notre adversaire? Comment on peut se dégager? Ici, l'adversaire, dans notre cas à nous, ou dans la société en général, dans ce que Jésus appelle, c'est le péché. C'est le péché qui colle à notre peau. Ça, c'est ce qui émane notre adversaire à nous en tant que chrétien à chaque jour. On est toujours en bataille, on est toujours en lutte. On est toujours en conflit avec notre nature charnelle, notre nature pécheresse qui est encore là, et ce qu'on devrait faire et comment on devrait agir. Il y a toujours une lutte, il y a toujours une bataille. Pouvons-nous prendre cet avertissement à la légère? Vous périrez tous de même, vous périrez tous pareillement. Qu'est-ce qui peut déformer la réalité d'une personne au point de ne pas se sentir concerné par cet avertissement? Comment est-ce que quelqu'un peut dire, ça me concerne pas ça? C'est pas pour moi, là. C'est peut-être vieux jeu. C'est une vieille Bible, des vieux écrits. Ça a dû se transformer avec le temps. Si on peut tourner dans 2 Pierre, chapitre 3. On lit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit la parole de Dieu. Donc, ils oublient la création. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Ici, il dit, ils ont même oublié le déluge. Ils ont même oublié ce qu'ils avaient été avant et la cause du déluge. Eux, ils ferment comme si, non, ça n'existe pas. Ils se bouchent les yeux. Ils se ferment volontairement les yeux. J'ai lu dans un livre qui est l'Évangile selon Luc de François Bassin, qui nous dit, c'est une croyance largement répandue que les malheurs qui frappent certaines personnes constituent une punition divine spécifique et méritée. Les disciples eux-mêmes semblent l'avoir partagé. Donc, à l'époque, c'était une coutume. Une tour t'a tombé sur la tête. Il le méritait. Il y avait certainement des gros péchés. Tu sais, moi, j'ai pas eu de tour sur la tête et je suis correct. Alors, les personnes qui ont été assassinées, ils devaient avoir des problèmes. Donc, c'était une punition divine. À cette époque-là, ils pensaient ça. Et même les disciples pensaient de même. C'était une monnaie courante. Si on tourne dans Jean 9, dans Jean 9, verset 1, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » On se rend compte ici que c'était monnaie courante de penser de cette manière. Il y a certainement de quoi de mal. Si tu nais comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a péché dans ton entourage, tes parents ou autre. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Donc ici, on se rend compte que c'était monnaie courante de penser ça. Peut-être que les gens pensaient ça. Peut-être que c'est la cause pourquoi Jésus n'a pas commencé à les flatter, pauvres de vous. Oui, c'est vrai, vous êtes meilleurs que les personnes qui sont décédées. Non, automatiquement, il leur parle, repentez-vous. Toi, quelle est ta raison qui te pousse à te boucher les oreilles? Est-ce qu'il y en a une pour ne pas entendre? Ou à te fermer les yeux pour ne pas voir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu? Luc 12 nous dit, « Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » C'est ce qu'on a vu juste les semaines précédentes. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. » Donc ici, on voit les premiers versets, c'est vraiment Dieu met l'emphase sur qui doit se repentir. Tous, sans exception. Tous ont péché et tous vont devoir passer devant le juge. Mais est-ce que c'était le mandat de Jésus de juste dire « Vous allez tous mourir? » Si on continue à lire, et on va relire dans Luc 13, relisons les versets qui suivent. Au verset 5, il parlait que vous périrez tous pareillement. Et là, Jésus n'attend pas, il relance encore le sujet de conversation. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Alors, le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est quand? C'est quand le meilleur moment pour demander pardon? Pour la première fois ou pour la millième fois? On va regarder ça. Quand doit-on se repentir? Dans le verset 6 à 9 qu'on vient de voir, François Bassin, que j'ai lu, nous met en garde dans son livre. Il nous dit, faites attention, une parabole, comme l'histoire qui écrit ici, peut avoir des multitudes de significations. Mais il dit ceci. François Bassin nous dit qu'il faut se garder d'interpréter cette parabole comme une allégorie, comme quelque chose qu'on peut prendre mot à mot, prise hors de son contexte. Une parabole sert à imager souvent le texte qui précède. Donc ici, on vient de voir Jésus qui dit « Repentez-vous tous ». Maintenant, on regarde la parabole et on doit chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que cette parabole-là est écrite?
Parce qu'on pourrait voir différentes images qu'on peut lire dans la Bible. Autant dans les psaumes, psaume 89 à 15, on lit que Dieu compare le peuple d'Israël à une vigne. Une vigne qui avait été plantée en Égypte, qu'elle avait grandi, qu'elle portait du fruit, et que Dieu a arraché, a enlevé la vigne du peuple d'Égypte. Parce qu'on se souvient que les Égyptiens ne voulaient pas perdre les Hébreux. C'était pour eux une mine d'or. C'était des ouvriers gratuits. Il avait enlevé la vigne qui appartenait à Dieu. Dieu l'a enlevé, sa vigne. Il l'a amenée, il l'a replantée ailleurs pour qu'elle puisse pousser et avoir. Ici, Dieu, OK, prend une image qui est une vigne pour le peuple de Dieu. À un autre endroit, on se rend compte dans Jean 15, 1, 8, Jésus dit, « Je suis le sceptre. » Le sceptre, c'est comme le gros tronc d'une vigne où pousse du raisin. Il dit, « Moi, je suis le sceptre et mon père est le vigneron. » Et là, on peut lire plein de choses sur manière d'imager ça. Je ne crois pas qu'ici, dans la parabole, on doit se concentrer sur c'est qui les personnages. Ah, ce serait qui le propriétaire? Qui serait le vigneron? Qui serait ci? Je ne crois pas que le but, c'est ça. Dans cette parabole, Jésus est resté centré sur le même point important pour l'homme, qui est la repentance. Qui sont les personnages? Ça pourrait être utile dans un second plan ou autre. Mais l'idée de la repentance reste. L'histoire se déroule sur une vigne. Pour qui le propriétaire ou la propriété d'avoir la vigne, le propriétaire était pas juste un arbre qui porte du raisin, mais une vigne pouvait être un grand territoire, une terre fertile, où il y avait plein d'arbres fruitiers. Le propriétaire, même pour la protéger, pouvait faire un énorme mur alentour, même des fois mettre des choses piquantes, pointues, pour empêcher les animaux d'y rentrer, empêcher les voleurs d'y entrer. On se rend compte que le propriétaire mettait beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent pour protéger sa vigne. Elle était importante. Un peu comme mon limetier au début. Après 2 semaines, j'aurais pu m'en débarrasser, ça ne m'aurait pas dérangé. Non, on met aux poubelles, il ne sert à rien. Après 2 ans, quand tu y mets de l'effort, c'est moi, c'était juste un petit limetier. On a pensé à mettre plus d'efforts. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà pris du temps pour lui. Il était déjà important. Donc ici, on se rend compte que le propriétaire a une grande vigne. Et dans la vigne, il y a un figuier. Nous constatons que le propriétaire accordait une grande importance à la vigne pour tout l'effort qu'il avait déployé pour l'entretenir. Le propriétaire du figuier se rend et se rend compte la première année, il serait supposé porter du fruit. Il n'en porte pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Un figuier est un arbre à croissance lente, très lent. Ça prend du temps avant qu'il puisse porter du fruit. Donc, il faut déjà être patient à la base. C'est pas quelque chose que je plante et 2 mois après, j'ai des figues. C'est déjà long. Et déjà, on se rend compte qu'ici, il dit quoi? 3 années, je suis revenu et il n'y a pas encore de fruits. Et là, il dit, là, on va le couper. C'est fini. Mais le vigneron, lui, qui a aussi à cœur, parce que lui aussi, il met la main à la pâte. Lui aussi, il entretient. Il dit, regarde, je vais encore plus mettre d'efforts. Un peu comme on l'émettait tout à l'heure, que les racines ne se rendaient pas au fond pour avoir ce qui était bon. Il décide de creuser en entour et dit, on va y mettre du fumier. Ici, je déconseille toute personne de dire, j'ai beaucoup d'importance ou tu as d'importance pour moi, je vais te mettre du fumier autour de toi. Pas bonne idée. Okay? Ici, on se rend compte qu'il va prendre le temps pour essayer qu'il puisse porter du fruit. Ici, ça fait référence à la grâce. La grâce du vigneron et du propriétaire de dire, on va lui donner 1 année de plus. On va lui donner encore du temps pour porter du fruit. Même, on va l'aider. On va l'amener à être capable de comprendre, d'avoir ce qui est bon pour porter du fruit. Dans certains textes, dans la parole, il dit, comment est-ce que les gens pourraient comprendre ou changer s'ils n'entendent pas? Cette année de grâce pour ce figuier était très importante. Car oui, Dieu est patient. Oui, le propriétaire est patient. Mais la patience a une fin. Et un jour, il va avoir un jugement. Un jour, à la fin de l'année, on ne sait pas trop quand, le propriétaire va revenir, il va regarder. Il va dire, tu n'as pas de fruits, on coupe. Un jour, nous, on va se retrouver devant Dieu et on va devoir rendre des comptes. Dieu va nous demander, qu'est-ce qui se passe avec toi? Dans 2 Pierre 3, 8, nous disons, mais il y a un point que vous ne devez pas oublier. Bien-aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Au verset 9, nous lisons, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Comme certaines personnes le disaient dans 2 Pierre tout à l'heure, comme on a lu, ah, ils sont où les promesses? Dieu disait, je vais revenir, mais il n'est pas encore revenu. Pour moi, ce n'est pas vrai. Ici, on dit non. Il dit, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Maintenant est le meilleur moment. On le disait tout à l'heure, c'est quand le meilleur moment pour demander pardon? Des fois, avec mes enfants, j'ai fait quelque chose de pas correct, et je le sais. J'ai manqué de patience, j'ai manqué de jugement, j'ai pas pris le temps de réfléchir, j'ai été égoïste. Et des fois, j'arrive et je dis, ah, je devrais demander pardon. Amen. Et là, je dis, je vais peut-être attendre un peu. Je vais peut-être, ah oui, je vais aller me reposer, me calmer. Et là, je vais être mieux pour frais et dispo. Et là, je me calme et je regarde mon enfant. Ah, il est calme lui aussi. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de demander pardon? Et peut-être pas. Regarde-le, il va bien, là. Ah, il est tout souriant. Ah, est-ce que j'ai besoin vraiment de demander pardon? Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on demande pardon, il y a restauration. Oui, il peut avoir le beau sourire, mais quand j'approche de lui, il me regarde, puis il y a quelque chose qui le chicote. Il y a quelque chose qui dérange. Et si on laisse ça aller, on va s'éloigner un peu. Et là, je vais encore refaire la même chose, et on va se rééloigner. Et on va se rééloigner. Et ça va durer. Et ça va... Est-ce que ça va aller en s'améliorant? Non. Ici, c'est la même chose. C'est quand le meilleur moment pour demander pardon? C'est maintenant. C'est maintenant le meilleur moment pour demander pardon. Dans Luc 12, 20, nous dit, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? » Ici, on parlait d'un homme qui avait amassé du grain et du grain et du grain. Et à place de faire partager à tout son entourage, « Ah, oh, je vais construire des encore plus gros greniers. » Il a défait toutes ses granges, il en a fait des plus gros, il en a mis de côté, et là, il pensait à lui. Hey, là, je suis bien pour longtemps. Il dit, insensé, ce soir même, ton âme te sera redemandée. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va revenir. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Il y a des textes même qui nous disent que nous sommes dans la période de grâce du Seigneur. Jésus vient. Et c'est comme si maintenant nous étions après les 3 années qu'on aurait dû être coupés. Oui, le peuple juif, parce que Jésus s'adressait à l'Ancienne Alliance, s'adressait aux Juifs. Maintenant, c'était la chance. C'était la période de grâce. Jésus était là pour amener ce qui était comme mon petit limetier, ce qui était bon pour lui, pour grandir, pour croître, pour ne pas périr. Avez-vous demandé pardon à Dieu pour votre vie de péché? Si vous êtes une personne ici ce matin qui n'avait jamais entendu parler de la Bible, c'est quoi ça? Qui est Dieu? Qui est Jésus? Est-ce que vous avez déjà demandé pardon pour vos péchés? Je connais des gens, moi, que c'est tellement dur de demander pardon que même pour une petite chose bien, bien, bien banale, c'est très dur d'aller voir quelqu'un et lui dire pardon. Et c'est de plus en plus difficile si on attend. Et si ça fait des années que tu n'as jamais demandé pardon à n'importe qui, à un voisin, à ta famille, plus que tu attends, ce ne sera pas plus facile. Oh, je vais attendre 10 années, ça va être plus facile. Je regarde une personne, ah ouais, ouais, elle a 50 ans, ça a l'air facile pour elle. Je vais attendre 50 ans. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et même là, si on apprend à nos enfants en bas âge à demander pardon, pour eux, ça va être plus facile pour eux plus tard. Mais une illustration vaut mieux que des mots. Souvent, les enfants vont le faire s'ils voient que nous, on le fait.
Amen.
Parce que si nous, on le fait envers nos enfants, leur relation, il va y avoir une restauration. Et là, ils vont comprendre, avec l'image qu'on a les uns avec les autres, si on se demande mutuellement pardon, on peut réussir à comprendre c'est quoi ça fait quand on demande pardon à Dieu. Il y a une restauration. Jésus amène, apporte le moyen et le seul moyen de pouvoir avoir une réconciliation avec Dieu. Le peuple juif avait des règles, des lois à suivre. Ces règles-là, ces lois-là, leur démontraient qu'on ne peut pas être parfait. Ça prenait quelqu'un qui vienne prendre notre place pour payer la dette. Le seul chemin pour la vie éternelle. Jésus a payé de sa vie pour que tu puisses avoir cette grâce. Tout comme le figuier. Jésus fait tout. Comme on peut le voir dans les Écritures, Jésus est l'agneau immolé. C'est lui qui intercède. C'était même lui qui était le sacrificateur, celui qui immolait. Il s'est lui-même donné. Jésus est tout. Et ici, pour nous, Jésus fait encore ça. Il dit aux gens. Il l'avait même expliqué avant, dans les différents chapitres qu'on a lus précédemment. On voit que Jésus est le seul moyen d'aller au ciel. Mais les gens devaient comprendre que même si tu vis une vie en règle, selon les lois juives ou selon les lois de Dieu, ça l'amène quand même à la mort éternelle. Il devait demander pardon à Dieu pour que Jésus prenne leur place, qu'il paie la dette. Si tu veux faire une demande, demander pardon à Dieu que tu ne sais pas vraiment comment faire, demande à la personne qui est assise aux côtés de toi. Demande à une personne. Viens me voir. Viens voir n'importe qui dans l'assemblée pour demander pardon. Et quand on demande pardon, c'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Qu'on ne peut pas aller pour l'éternité avec Dieu sans pardon. Dieu nous met en garde. Nous qui sommes les serviteurs de Jésus, si tu as accepté Christ déjà dans ta vie, que tu connais tout ça, que tu as demandé une fois dans ta vie, « Pardon, Jésus, j'ai besoin de toi. » Est-ce que ça s'arrête là? « Ah oui, moi j'ai déjà demandé une fois, je pense, pardon à Dieu pour qu'il prenne ma place. » Est-ce que ça reste comme ça? Nous avons lu les semaines précédentes au verset 37 du chapitre 12 dans Luc, la vigilance. Il est écrit « Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Au verset 39, il dit « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Est-ce que nous savons quand Jésus va revenir? C'est maintenant le bon moment. Nous sommes présentement dans la période de grâce que Dieu nous offre pour que nous ne périssions pas tous de même. Lorsque nous avons demandé pour la première fois pardon à Christ, il a commencé à faire en nous une œuvre merveilleuse. Nous avons commencé une vie fondée sur la repentance. Chaque jour, nous devons demander pardon à Dieu pour nos offenses. Certains disent, c'est bien trop souvent. Moi, je pêche une fois par semaine. Bon, je vais demander pardon une fois par semaine. Certains deux fois par mois. C'est encore mieux. Est-ce que c'est ça qu'on lit? Nous lisons dans Luc 11, 2, il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. » Ici, ce n'est pas une prière qu'il faisait une fois par mois, une fois par année. C'est une prière quotidienne à chaque jour. Mais à chaque jour, on doit demander pardon à Dieu. À chaque jour, même en tant que chrétien, nous, on doit demander pardon. On doit s'efforcer de voir nos péchés et les remettre à Dieu pour changer. Donc, je conclue sur ceci. C'est quand le bon moment? Maintenant.